Bonjour à toutes et à tous, je vous espère en excellente santé dans cette période de rentrée. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite du courage et l'espérance chevillée au cœur. La route inconnue s'ouvre à vous cette année encore. Chaque quinzaine, vous aurez la joie de découvrir ou de redécouvrir un ou une poète, leur poème bien entendu. Parfois, eh bien, c'est un éditeur qui répondra à nos questions et vous retrouverez nos chroniqueurs de choc, Claude Verset et Jacques Morin de l'illustre revue de poésie des charges, sans laquelle cette émission n'existerait pas. Les poètes Cécile Guivarch, Patrick Jokel, Jean-Claude Touzeil et un nouveau venu qui est loin, mais alors très loin d'être un nouveau venu en poésie, on peut même dire qu'il fait d'ores et déjà partie de l'histoire de la poésie française de la seconde moitié du XXe siècle en tant que créateur et directeur des éditions du Dé Bleu entre 1974 et 2009. Louis Dubos, puisque c'est de lui que je parle, a publié et souvent découvert un nombre impressionnant d'auteurs qui font aujourd'hui partie du panthéon de la poésie contemporaine. Poète, il a publié une quarantaine de livres chez de nombreux éditeurs. Bref, eh bien, on est très fiers que Louis Dubos, qui par ailleurs est aussi un collaborateur de la Revue des Charges, nous sommes donc très contents que Louis Dubos ait accepté de nous livrer une chronique tous les mois. Alors pour cette émission de rentrée, je voulais rendre hommage à un poète qui nous a quittés le 30 juin dernier, un poète que Jacques Morin dans la Revue des Charges et Louis Dubos au Dé Bleu ont publié à plusieurs reprises. Il s'agit de Michel Merlin. Michel Merlin est né en 1940. Il a publié une dizaine de livres, pas davantage. Sa vie comme son œuvre sont placées sous le signe de l'angoisse et de la souffrance morale. Poète de la faille, de la fracture, d'un quotidien sans illusion, déclare Christophe Dauphin dans sa revue Les Hommes sans épaules. Jacques Morin, Michel Merlin fait partie de ces auteurs que vous aimez tout particulièrement, au même titre que Jean-Paul Klee, pour ne citer que lui. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant, qu'est-ce qui vous a plu chez Michel Merlin?
Nous on dit Michel Merlin.
Michel Merlin.
Enfin, peu importe. C'est une poésie unique, voilà, que je considère comme à la fois solaire et sensuelle. Et tout ce que tu dis, la fracture, angoisse, ça lui convient tout à fait. Mais en même temps, il est constamment à la recherche de la lumière et du bonheur. Et c'est ce paradoxe majuscule qui me plaît chez Michel Merlin.
Oui, parce que toute sa vie, c'est l'homme qui a subi de véritables tortures psychiques, qui l'ont conduit à plusieurs reprises à l'hôpital psychiatrique. Sa poésie emporte les stigmates, mais c'est vrai que Merlin ne prend jamais la pose du poète maudit. Il y a un amour de la vie très exigeant qui ne va pas sans révolte non plus.
Oui, voilà, comme je disais tout à l'heure, amour de la vie, recherche du bonheur. Il ne s'est jamais considéré comme un poète maudit, tout à fait. D'ailleurs, il a toujours été en recherche par rapport à un dossier qu'il voulait faire, enfin, ou une étude, je ne sais pas au juste, sur la poésie de l'art brut. Enfin, l'art brut, en général. Et d'ailleurs, il a travaillé aussi par rapport à la peinture. Ça, c'est un aspect très important de ce qu'il a fait. Il a été longtemps un chroniqueur de la revue Foldane de Jacques Josse, où il s'occupait de ce secteur. Et même dans des charges, il a, par deux fois, travaillé avec des peintres qu'il a présentés dans la revue. Donc, le côté poète maudit, c'était trop complaisant pour lui. Mais ce côté art brut, il s'inscrivait, il était attiré par cela.
Alors, quels ont été tes contacts avec Michel Merlin? Parce qu'il me semble que l'homme était vraiment très secret. J'ai essayé de piocher des informations sur Internet. Finalement, il n'y en a pas tant que ça.
Non, alors bon, enfin, les informations sur Internet, elles sont plus importantes aujourd'hui qu'elles n'étaient. Mais bon, moi, je l'ai connu, alors, en ce qui nous concerne, en 1984, j'ai recherché un petit peu. Et je m'occupais à ce moment-là d'une mission de radio, exactement comme toi, et il était chroniqueur. Donc j'avais la chance de le voir un peu tous les 15 jours venir pour faire sa chronique, ce qui s'appelait Prégnance. Et donc il travaillait avec moi, et c'est comme ça surtout que je l'ai connu à ce moment-là. Il a même fait venir, s'il connaissait pas mal de gens, comme Hubert Haddad, comme Mouji, qui est venu à l'émission. C'était évidemment pour moi un très important. Et donc, par ailleurs, je l'ai édité deux fois dans cette même période, en 83 et en 88 en Polder. Et c'était un moment comme ça assez creux dans ce qu'il faisait. Il a pu peu publier, et là c'était un peu un moment de béance un peu dans sa publication. Donc c'est très important. Donc c'est quelqu'un que j'ai bien connu à un moment donné. Puis évidemment, par la suite, bon bah ne se voyant plus pour l'émission de radio, c'est pas perdu de vue, parce qu'il me téléphonait assez souvent. Mais bon, je le rencontrais plus.
Ouais. C'est un auteur que tu as toujours défendu. Je me souviens de plusieurs numéros, il y a à peu près une dizaine d'années, où il était toujours toujours au menu, on va dire. Et ce qui a permis, finalement, comme toutes les revues, finalement, de redécouvrir des auteurs, de ne pas les perdre de vue.
Voilà, exactement. Pour moi, c'était très important. Alors, ce qui est était marrant, c'est que je l'ai publié deux fois en polder, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, la période craft de la revue des charges. Et puis, il met très peu dans la revue elle-même, parce qu'on est en train de faire un dossier sur lui qui sortira dans le prochain numéro, enfin de décembre, dans la revue. Donc, j'ai repris un petit peu tous les numéros pour regarder où c'était. Et donc, je l'ai publié surtout dans la revue, dans la deuxième période, enfin la période depuis 1990, on va dire. J'ai publié cinq fois, et ça a permis un petit peu de l'entretenir quelque part, parce que c'est vrai que il a été publié nulle part, et même Claude Verset, qui a fait un dossier à un moment sur lui, se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne s'occupe de Michel Merlène, qui était quand même un poète très important, et qu'il demeure.
Ouais. Oui, il apparaît d'ailleurs dans plusieurs anthologies de poésie de la fin du XXe siècle. Est-ce que son œuvre en restera?
Alors ça,
mais c'est toujours un pari difficile à faire, bien sûr.
Je ne sais pas. Bon, moi, je veux dire, une petite parenthèse, que ce sont évidemment ceux qui font les anthologies qui vont le dire. Enfin, dans le sens où, selon un petit peu la maison d'édition dans laquelle ils se trouvent, ils vont choisir leurs auteurs dans ce cas-là. Donc, ça ne sera pas forcément le cas de Michel Merlène. Mais bon, pour moi, enfin, en tant que tel, bon, moi, je ne suis pas un auteur d'anthologie important. Je pense que c'est quelqu'un qui me paraît très important, fondamental dans sa poésie, justement par ce que j'ai dit au départ, un peu cette opposition entre le côté un peu de la souffrance et le côté un petit peu du bonheur, qui sont deux choses vraiment tout à fait antinomiques, et ça me paraît très logique et évident qu'il soit, mais ça, je ne sais pas trop ce qui se passera par l'avenir.
Ouais. On peut dire que c'est une poésie qui est très, à la fois très écrite et en même temps accessible à tous, et une poésie à vivre.
Oui, voilà, exactement. Et c'est ce qui me plaisait aussi dans son style. Il y a un style, les images, surtout, les images sont directes, rapides, brillantes, fulgurantes, et avec un vocabulaire relativement simple. Il avait cette facilité d'écrire. Sa femme, Nadia Mongin, dans le dossier, là, enfin, c'est une de ses femmes, nous dit comme ça que quand il écrivait, bon, il écrivait sans rature, pratiquement. C'était avec une belle écriture, d'ailleurs, hein. Je passerai un poème de lui dans manuscrit, dans le prochain numéro, et donc on verra. C'est vraiment une belle écriture, très reconnaissable, et donc il écrivait directement, sans revenir dessus, pratiquement, sans faire un bruit.
L'image est nette chez lui. Hein, elle est très nette, quoi.
C'est toujours des images comme ça qui sont, enfin, moi, je sais que quand je le lisais, j'en prenais toujours plein la tête, oui, plein la vue, parce que c'était vraiment des images, exactement, des trouvailles chaque fois, bon, avec des mots très directs, très forts. Même ses titres, d'ailleurs, je trouve qu'il a pris Le jeune homme gris, donc qui fait partie un peu de sa bibliographie, était un titre un peu. Là, tu m'as interrogé, Louis, là-dessus, là, j'ai vu. Oui. C'est intéressant parce que c'est vrai que par rapport, mettons, à Abattoir du silence, c'est un titre qui m'a toujours
magnifique.
Il m'a toujours planté. Ouais. Quand je lis ça, je dis bon. Oh,
c'est une claque.
C'est incroyable, voilà.
Est-ce que est-ce qu'il était difficile de
alors oui
de contact.
J'en ai parlé un petit peu parce que moi qui l'ai connu, enfin un petit peu, hein, Jean-Michel Robert, qui l'a connu beaucoup plus vers la fin de sa vie, bon, on aurait pu en parler plus avant, mais lui-même est décédé l'année dernière. Ouais. Moi, je l'ai vu, et quand je faisais justement l'émission avec, je pense à toi là-dessus, quand je faisais l'émission avec lui, alors nous, on avait un studio, on était en direct, enfin, dans le studio, et c'était très difficile de savoir un peu comment ça allait se passer avec, avec Michel, parce que une fois qu'il avait le micro en main, on savait pas trop s'il allait le reposer quand c'était le moment, ou, etc., ou il laissait un gros blanc derrière, on n'était pas préparé, enfin bon, fallait relancer derrière. Enfin bon, c'était toujours assez compliqué. Et puis, il avait son caractère, bon, du fait un peu de ses problèmes aussi psychologiques. Ouais. Et c'était pas toujours évident. Quelquefois, bon, il était muré. Enfin bon, c'était, je sais que. Enfin, je parle, moi, de relations en dents de scie avec lui. Ouais. Voilà un peu le terme que j'emploie.
Ouais. Jacques, merci. On attend avec impatience, du coup, le décharge du mois de décembre, qui sera donc, si j'ai bien compris, un spécial Michel Merlène.
Enfin, pas uniquement. Hein, pas uniquement. Dans la revue, ouais. Il y a toujours des dossiers, mais il n'y aura pas que ça. Mais il y aura un dossier spécial Michel Merlène à l'intérieur, évidemment, entre autres. Il y aura certainement un inédit, enfin, de sa part, que j'avais reçu en 2010, des textes un peu plus journal, prose, si on veut, qui n'a pas été publié, finalement.
Jacques, merci. On te retrouve donc sous quinzaine pour ta première chronique de l'année. Je me tourne à présent vers Louis Dubos, qui a publié deux livres de Michel Merlène, Le jeune homme gris en 1980 et Généalogie du hasard en 1986. Publier Michel Merlène s'est imposé à vous, toute affaire cessante, Louis ?
Toute affaire cessante, faut pas trop exagérer tout de même. Disons que sa poésie suffit à l'imposer à un éditeur, du moins à un éditeur de mon acabit, qui s'est décarcassé pour être le découvreur et le passeur d'un certain nombre d'écritures proposées par des poètes de ma génération. Et je pense encore aujourd'hui, après 8 ans de retrait des affaires poétiques, puisqu'on parle d'affaires, que je ne me suis pas trop souvent trompé, en tout cas pas avec Michel Merlène.
Ouais. Alors comment s'est faite la rencontre?
Ben, la rencontre, c'est le jeune homme gris.
Ouais.
Hein, et le jeune homme gris...
On dirait un titre de Simenon un peu, moi, je trouve.
Voilà, voilà, oui, oui. Donc, pour moi, disons que Michel Merlène, c'est le jeune homme gris.
Ouais.
L'homme, le poète, l'auteur. Et d'ailleurs, curieuse est votre référence à Simenon, sans doute à cause du chien jaune, je suppose.
Ah, c'est possible, oui, oui, oui.
J'y vois plutôt l'évidente proximité constatée chez nombre d'auteurs, tant poètes qu'écrivains de polar, thrillers, romans noirs, etc., dans leur commune approche des problèmes d'une société qui va mal.
Ouais.
Leur effort dans le traitement du langage, de saisir le malaise de l'individu en proie aux grands malaises sociaux. Michel Merlène, c'est un homme qui écrit, au sens où un ami de Jean Ferrat disait de lui que ce n'était pas un chanteur, mais un homme qui chante.
Ah. Mmh.
Michel Merlène est d'abord un homme, un jeune homme gris, qui souffre et ne veut pas souffrir, qui se cramponne au soleil pour ne pas s'effondrer. Mais le soleil, ce n'est pas pour lui. Au contraire, ce sont, je cite le dernier poème de Généalogie du hasard, les nuits qui consolident les fondations de l'existence. Bien souvent des nuits provoquées artificiellement, sous perfusion dans la ronde de nuit des aiguilles. J'ai vu ça dans ma rencontre avec Michel Merlène. J'ai lu ça dans son manuscrit Le jeune homme gris, publié en janvier 80. Il porte le numéro 25 de la collection Le Dé Bleu, imprimé à 613 exemplaires sur mon duplicateur à encre, avec la reproduction d'une gravure d'un de ses amis plasticiens, Henri Nem. La date est importante. Michel Merlène fait partie du premier cercle des poètes de mes éditions, à l'époque de ce que j'appelle la préhistoire des éditions, lorsque je fabriquais moi-même les ouvrages et les autodistribuais. Premier cercle donc, avec François de Cornière, Claude Verset, Christian da Silva, Vernal Ambercy, Didier Pobel, Charles Julliet, James Sacré et tous les autres. C'est dire que Michel Merlène, compagnon des premières heures, reste et restera le jeune homme gris. Dans ce mince opuscule 40 pages, tout est dit, à voix feutrée, un peu cassée, avec une violence modeste, ouais, comme dit Patrice Delbourg. Ce titre pourrait, je pense, convenir pour une édition de ses œuvres complètes.
Alors, une violence modeste, mais une violence tout de même.
Violence, oui, oui, tout à fait.
Une violence du désir, notamment.
Tout à fait, oui.
Ouais.
Oui, oui.
Comment les deux aventures éditoriales avec Michel Merlène se sont-elles déroulées, notamment pour Généalogie du hasard, qui a suivi donc Le jeune homme gris, Généalogie, oui, du hasard en 1986. Le contact était facile avec Michel Merlène. C'est un homme qui disparaissait de la circulation, comme ça... De temps en temps, je l'ai dit avec Jacques Morin, qui a eu d'extrêmes difficultés existentielles.
Oui, oui. Mais au Dé Bleu, les aventures éditoriales commençaient toujours par des rencontres.
Oui.
Alors, je ne me souviens pas trop de ma première rencontre avec Michel Merlène, mais j'ai retrouvé, en préparant cette interview, une photo qui date des années 78-79, prise lors des rencontres conviviales du Val-Saint-Père près d'Avranches. Des rencontres qui étaient organisées par Christian Dorière et François de Cornière. Les cheveux du jeune Michel Merlène commencent à grisonner, mais il ne semble pas malheureux de se trouver en joyeuse compagnie. C'est sans doute là qu'ont débuté nos échanges de courriers et de poèmes. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Et c'est là sûrement qu'a été engendré le projet du jeune homme gris. Alors, à ce moment, à cette époque, il me semble me rappeler que Michel Merlène venait de divorcer 2 ou 3 ans avant, d'avec Jeanne, sa première épouse. Quelques poèmes y font une très discrète référence. Je crois aussi qu'il venait de rencontrer sa future seconde épouse, Nadia Mongin, dont il me parlait avec des yeux et des mots heureux, me donnait à lire de ses poèmes, dont j'ai d'ailleurs publié en 1983 un petit ensemble intitulé « Mots pour encre ». Mais la vie du couple, du fait du mal-être récurrent de Michel, devait être difficile. D'ailleurs, ils se sont séparés au milieu des années 80, avant ou après la parution de Généalogie du hasard, je ne sais plus trop. Et puis, nous nous retrouvions régulièrement, chaque année, place Saint-Sulpice au marché de la poésie.
Ouais.
Poursuivant, de vive voix, la conversation développée par courrier. Dans les rapports directs, au corps à corps, si je puis dire, Michel ne se met jamais en avant. Il suffit, par exemple, qu'une tierce personne s'infiltre, et ça ne manquait pas, j'étais très sollicité à cette époque-là, pour qu'il devienne quasiment invisible, oui. Mais le corps n'a pas bougé, même si l'esprit reste, semble être ailleurs. Bref, on a préparé la publication de Généalogie du hasard, un projet de livre qu'il a porté avec enthousiasme, comme si c'était une sorte de substitut de ses béquilles neuroleptiques. Il avait à l'époque des contacts réguliers avec le sculpteur Jean-Yves Poustegui, et l'avait convaincu de participer d'une manière ou d'une autre à la réalisation du livre. C'est ainsi que Poustegui a fait des dessins d'un érotisme doux, mais très suggestif, à l'instar de nombre de poèmes de Michel. Et puis, une idée folle. De qui venait-elle, Merlène ou Poustegui, je n'ai jamais su, vraiment. En tout cas, une grande aquarelle Poustegui, une sorte de Madone stylisée, au format 57-76 cm, reproduite en facsimilé à 80 exemplaires par la technique dite du pochoir et colorié à la main, réalisée par l'atelier de Nathalie Couder en Bretagne, numérotée et signée par l'artiste. Et tout ça pour la vendre en soutien aux éditions.
Formidable.
Je précise en aparté qu'il m'en reste 50 exemplaires, donc avis aux éventuels collectionneurs. Pour mon compte, j'avais jamais vu ça. Et puis juste avant la publication du livre et l'impression de l'aquarelle, Michel Merlène, Poustegui et une copine de l'artiste, qui avait son permis de conduire, ont fait l'aller-retour en voiture dans la journée de Paris à Chaillé-sous-les-Ormeaux, chez moi donc, les uns et les autres souhaitant connaître mieux le travail et l'existence au jour le jour de leur éditeur. Ils n'ont pas été déçus du voyage, moi non plus d'ailleurs. Plus tard, nous avons passé une journée semblable chez Poustegui dans son atelier à Choisy-le-Roi. Voilà comment se sont déroulées les aventures éditoriales, comme vous dites, avec Michel Merlène. Autant dire que pour moi, elles furent uniques en leur genre et demeurent inoubliables. J'ajoute que cette proximité, et là, on ne peut pas parler de familiarité, encore moins d'intimité, avec Michel Merlène, m'en ont beaucoup appris sur son extrême fragilité. J'ai pressenti et senti très fort que la poésie lui permettait de s'ouvrir les rêves plutôt que les veines. Bref, poésie pour vivre, vivre mal ou survivre, mais vivre quand même. Voilà ce que j'avais ressenti lors de nos premières rencontres.
Alors, en commençant l'émission, j'ai cité Christophe Dauphin disant « Michel Merlène est le poète du quotidien sans illusion ». Or, le Des Bleus a été plus ou moins le berceau de cette poésie dite, à tort ou à raison, du quotidien. Et bon, les faits qui se sont penchés sur ce berceau sont bien connus, vous les avez cités tout à l'heure. J'en cite quelques-uns, François de Cornière, Jean-Claude Martin, Autain Grenier, Jean-Pierre Georges. Est-ce qu'on peut ajouter Michel Merlène à cette liste? Et surtout, est-ce qu'il occupe une place particulière dans votre catalogue? Parce que c'est la poésie au quotidien, mais c'est un quotidien halluciné ou anesthésié par les neuroleptiques.
Tout à fait. Bon, pour situer un petit peu les choses, disons que à cette époque-là, j'avais effectivement la réputation d'être un des éditeurs de la poésie du quotidien. Voire même, après la polémique déclenchée par un critique littéraire, je ne sais pas si vous vous souvenez, à la suite du phénomène éditorial constitué par le succès de la première gorgée de bière. De Philippe Delerme, qui est un ami d'ailleurs de François de Cornière, dont j'aurais pu, si Gallimard n'était pas passé par là, l'ajouter à mon catalogue. Donc ce critique qualifiant de poésie du moins que rien tous les auteurs que vous venez de citer.
Ah, d'accord.
Voir donc, disais-je, l'éditeur des poètes du moins que rien. C'est-à-dire les poètes tels que Godot, de Cornière, Martin, Jean-Pierre Georges, Autain Grenier, et quelques autres.
On sourit hein, quand on entend ça, mais enfin bon.
Comment ?
Je dis on sourit quand on entend...
Oui, on peut rigoler. C'est-à-dire que je les ai tous édités, presque tous édités, sauf évidemment Philippe Delerme. Ouais. Michel Merlène était de ceux-là, mais dans sa singularité. La place qu'il occupe dans mon catalogue est donc, ne serait-ce que chronologiquement, l'une des premières. Le quotidien, il faut le vivre malgré tout. Poésie pour vivre, chez Michel Merlène, le mal vivre, amène, si on peut se permettre l'expression, du bien écrire pour un bonheur difficile et sans lendemain. Je crois que les moments heureux de Michel Merlaine ont été la parution de ses livres, peu nombreux, une quinzaine de titres à peu près, où les mots faisaient, je cite à peu près, descendre sa chair dans les choses, c'est-à-dire les choses réelles, concrètes, volume de papier bien calé dans la main. En effet, chez lui, le quotidien possède un climat extrême. Ce n'est pas un lieu où il peut extérioriser son être. Il en est, en quelque sorte, l'hôte de passage, furtif, inquiet, angoissé, perdu comme un enfant dans une forêt. Il y cherche en permanence, d'ailleurs tout en s'en défendant avec presque de la rage, il y cherche donc un homme, je cite toujours, un homme en blouse blanche qui lui prenne la main. Implicitement, c'est ce qu'il demande à un éditeur. Or, un éditeur n'en a ni la fonction ni la capacité. C'est sans doute à cause de ça, de ce malentendu, que je n'ai pas édité d'autres livres de Michel Merlaine.
Alors, est-ce que sa poésie a fait des petits, selon vous ? Est-ce que... ou alors sa voix est-elle encore aujourd'hui absolument singulière ?
Singulière, oui.
Ou solitaire.
En tout cas, il n'y en a pas d'autres semblables. Ouais. Disons que je ne connais pas trop ce que font les jeunes aujourd'hui, ce qu'ils écrivent et publient. Je sais seulement que le mal-être n'est pas un privilège, n'est pas le privilège d'une génération. Hein. Celui d'aujourd'hui s'exprime tout autant sans doute, mais différemment. Reste que, pour moi, la voix de Michel Merlaine est unique dans sa singularité, à l'instar d'un François de Cornière, d'un Jean Sacré, d'une Valérie Rougeau, d'un Antoine Desmaz, c'est-à-dire une voix absolument identifiable dès les premiers mots d'un poème.
Ouais. Le temps court, je vais vous poser une dernière question qui est plutôt d'ordre pratique. Oui. Vous avez donc, vous l'avez dit tout à l'heure, abandonné l'édition il y a 8 ans. Alors, où doit-on s'adresser pour se procurer aujourd'hui les publications du Des Bleus, les Cornières, les Michel Merlaine, les Godot? Comment on peut faire?
Alors, Michel Merlaine, je ne sais pas s'il en reste beaucoup de disponibles. De Cornière, je ne sais pas. Godot, il doit rester quelques-uns. Disons que lorsque j'ai cessé mes activités d'édition, j'ai cédé les stocks à deux jeunes éditrices dont j'estimais beaucoup le travail. Alors, d'une part, la collection Le Des Bleus, je l'ai cédée à Sandrine Fay des éditions Éclat d'encre. Mais vous le savez peut-être, Sandrine, qui est atteinte d'un cancer, à 42-43 ans, hein, c'est dur, a cédé son affaire et les stocks de livres aux éditions À Propos. Alors, je donne l'adresse des éditions À Propos, 2 rue Frédéric Clément, 92 380 Garches, téléphone 01 45 31 79 28. Alors, les éditions Pignon sur rue à Paris, dans les locaux de la librairie José Corti, qui ont été repris par l'association des éditeurs associés, justement, dont font partie les éditions À Propos. Tandis que la collection jeunesse Le Farfadet des Bleus est diffusée par Hélène Boinard des éditions Cadex, je donne l'adresse, 7 rue du Chartre, 34 420 Port-Tiragne, téléphone 04 67 76 35 70, et qui sont, à ma connaissance, distribués par, en librairie, hein, distribués en librairie, par Dilisco. Voilà ce que je peux vous dire.
Louis, merci beaucoup pour toutes ces confidences au sujet de Michel Merlaine, pour ces renseignements pratiques. Et puis, les auditeurs de La Route Inconnue, je le dis, vous retrouveront dans une quinzaine pour écouter avec attention votre première chronique. Chers auditeurs et auditrices, je vais à présent vous lire quelques poèmes extraits de Généalogie du hasard, dont nous avons parlé tout à l'heure. Généalogie du hasard fait partie donc du catalogue des éditions du Des Bleus.
Place de la Bastille. Je n'accepte pas de mourir. Je n'accepte pas que le sexe de la poésie ne fleurisse plus dans la galaxie du vivre, faisant monter ainsi le foutre des couleurs. Je n'accepte plus les chèques de la tendresse, les câlins castrateurs à odeur de linceul, les économies qui vous rasent le poil de l'imaginaire. Vive les cuisses lisses du libre, la mise en scène du réel par le hasard. Vive le ventre du soleil, vive, vive le comble des étoiles. Vive la grossièreté pure du vivant, les arbres qui branlent la ville. Vive les enfants qui cassent les images, vive les cicatrices du feu. Mon père viendra ce soir frapper à ma porte. Il porte sur son front le coma des poèmes qui n'ont pu jaillir. Je ne suivrai pas son exemple. Je pars à New York, à Pâques 86. Ma femme a de beaux yeux. Mémorandum. Tu feras passer coûte que coûte tes mots dans les yeux des autres. Ils sauront que tu es un déserteur qui n'a jamais retrouvé le pays où il vit. Tu es sourd aux autres et aussi clairvoyant qu'un puits. Tu ne vois que les étoiles. Tu écris dans les boyaux du quotidien, entre les égouts de Paris et la citerne du ciel. Les lettres tiennent, en dépit des secousses et des arrêts. Bleu cobalt. Tant de mots blancs, lèvres ouvertes. Les arbres tirent le soleil par la queue. Les métropoles s'agitent comme de grands blessés sous les douze coups d'un midi tétanisé. Samedi traîne ses cloques. Femmes androgynes, appartements déserts, agates velues de couleurs glissent dans les corridors. Quelque part le cancer tousse sur les vitres. La peur au ventre de ne pouvoir écrire le désir, l'amertume juste au-dessus de l'estomac. Un homme pris dans la cuvette du quotidien rêve quand même en écoutant Sonny Rollins. Dimanche claque comme un miroir. Trac, bleu cobalt. Les parasites grouillent dans la mémoire. Aiguës les trompettes vomissent de plaisir. Les jours mettent en joue l'homme fléchissant de ne pas mettre dans le mille de la nudité solaire. Espoir féroce pourtant d'arracher les tenailles qui mordent la langue. Intérim. Silence des respirations. Ils penchent de droite à gauche à chaque tournant de l'existence. Ils attendent. Il n'y a pas de quoi rire, pas plus qu'il n'y a de place pour le mépris, ici. Transfusion. Sous les feux de la rampe du matin, certains portent tout leur être sur leur visage, comme si à l'intérieur, ils avaient à peine de quoi vivre. Boulevard Sébastopol. La violence, la dureté, les murs, les gens, malades. Les bus que j'envie parce qu'ils vont plus loin dans la nuit et la lumière. Les mains qui se fripent à ne pas écrire et à trop écrire. Ces corps qui m'échappent et qui auraient voulu du mien peut-être. À quand, pour quand, une vraie étreinte. Avec le monde, oui, avec le monde. Avec ma main entre les cuisses de qui je veux. Avec des mots sauvages, des découvertes, des rivages que j'aurais choisis, des déchirures de soleil vrai, de vrai bleu. Scorpion. Tu voudrais bien savoir. Tu dois attendre. Le désir est là. Au lieu de le vivre, tu bois un demi, une royale aux lèvres, blonde du pauvre. Novembre, lentement, découle les avenues. Ta vie ressemble aux 75 qui tournent au carrefour en respectant le sens giratoire. Paquebot. Ne laisse pas aller le monde sans toi. Privilégie l'excès. Reste, éteins le malheur et vois. Il va faire beau. Les gens du matin, avec leurs yeux froissés, regardent l'enfant que tu portes sur ton bras. La sueur qui perle à tes lèvres et celle du contentement. Numérique. Précédé par les sirènes de l'urgence, tu pars au travail. Tu as peur des consoles, des écrans qui t'attendent. Tu préfères regarder les épaules des filles qui n'ont pas fini de grandir. Le bureau immense ressemble à une exposition Kafka. Tu avales comme un voleur du Tranxen. Impossible de reculer, les chiffres sont là. Avec leurs yeux froids, ils calculent ta valeur marchande. Stase. Lundi de brume. L'électricité brûle encore dans les chambres abandonnées à la hâte. Les arbres ne bougent plus. bardé du vitamine d'anxiolytique, tu descends l'avenue. Tu suis éperdu la troupe des hommes, t'engouffres dans la bouche pleine du métro, tu serres ta carte orange comme une photo d'amour, une foule de questions tourbillonne, brasille à l'intérieur de ton crâne, écrire qu'est-ce que c'est et pourquoi et pour qui, la flèche du temps dans le dos, tu connais mal encore le métier de vivre, tu mélanges tout, l'amour, la nudité, les efforts, le plaisir, la volonté de gagner fait craquer ta solitude. Debout. Non. Je te dis non. Non, je ne suis pas mort. Pas plus que la charpie de l'eau quand elle se lève et se regarde, se retourne. Non, les femmes ne sont pas belles. Non, elles éclatent avec toutes leurs vices et l'arc-en-ciel les trousse. Et je suffoque en cherchant en elles un homme inconnu. Non, les oiseaux ne volent pas. Non, l'herbe n'est pas tendre. Non, les violons n'existent pas. Non, mon bureau n'est pas un cercueil. Je n'ai pas d'autre bureau que celui de l'air du jour. Standard. L'anxiété te noue la gorge. Tourbillonne à tes oreilles. Il te faut créer pour te faire entendre. Tu ne vis pas au présent. Soubresaut sanglant des souvenirs qui tressautent. Standard de la mémoire. Puisqu'elles ne sont pas mortes, touche-les juste en dessous du cœur. Ces femmes qui t'empêchent de jouir pleinement. Garde ton écriture pour les autres. Hier, place de la Rade, flottille de souvenirs, la première gorge de femme découverte, sa connaissance. Comédien, disait ta mère, femme-enfant made in America, quand elle voyait les prémices de la mélancolie, détruire doucement ton espérance. Topic. Ils n'ont pas voulu ni te tuer, ni que tu vives. Ils ont fait l'amour mal. Le hasard d'une naissance s'est levé. Ouvre ta gorge, crie, sois bien portant. Debout, on voit mieux les autres. Extrait d'un recueil intitulé « Le jeune homme gris » qui figure dans la seconde partie de « Généalogie du hasard » publié aux éditions Le Des Bleus. C'est toujours le poète Michel Berland qui parle. Dans le ciel, un accroc. Comment avait eu lieu l'accident? Au refuge tintait les éclairs. Debout, elle ouvrait au feu sa fourrure, un grand sourire aux lèvres. Les nuages n'étaient pas armés. Personne n'avait peur. Nous avions dépassé le sommet sans nous apercevoir. Chacun ayant reçu en pleine poitrine le cœur de l'autre, il n'était plus question de parole. Valvert. Juillet 78, Valvert. Jusque dans les feuillages, pire que l'ennui, une odeur de merde mentale, troc, misère, lavabo fétiche où tombent les cheveux des pauvres. Pourtant, dans cet entrepôt pour rater, sous les hardes des sexes authentiques, des ventres conformes, des pas perdus qui laissent toujours la même empreinte. Le lasso des jours. Chaque seconde est une bulle d'air dans la veine de la vie. Gaze de la paume des mains, cherchant la pointe des seins. Chaque regard évité plonge le sexe dans le noir. Lasso des jours qui enserre l'homme pris à la gorge dont les tempes menacent. Reste le soleil des autres. Seconde noce. Je la connus, culotte blanche sous jupe noire. Alors que le cancer avait emporté les 110 kilos de Virgile, son père, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, elle vit à Hier avec nos deux enfants. Moi, dans un hôpital à Marseille, je me prépare à la prison. Contre mon gré, nous divorçons. Je n'ai pas eu assez de force. Nous aurons de secondes noces et nos enfants seront nos témoins. Les bras chargés de roses blanches. Tes dents tomberont, une à une. Oui, mon enfant, de lait et de fougère. Mais console-toi, comme la queue des lézards, elles repousseront. Ton sourire alors, au-dessous neuf, dans le champ du blé, ouvrira les lèvres des coquelicots. Voilà, c'était donc un extrait, quelques extraits, de Généalogie du hasard, publié aux éditions Le Des Bleus, un très beau livre de Michel Merlan, qui malheureusement vient de nous quitter. Nous allons dans quelques instants, après un peu de musique, prendre connaissance de la chronique mensuelle de Claude Verset, notre ami Claude Verset, poète et chroniqueur à la Revue des Charges. Je crois qu'il sera encore question de Michel Merlan. À tout de suite. Afro Blue de John Coltrane, John Coltrane que Michel Merlan, il faut dire Michel Merlan et pas Michel Merlan comme je l'ai dit précédemment, que Michel Merlan a beaucoup aimé, il mentionne plusieurs reprises dans ses recueils ce grand jazzman John Coltrane. Nous poursuivons notre hommage à Michel Marlène qui nous a quittés, je vous le rappelle, en juin dernier avec le témoignage de Claude Verset, notre chroniqueur et animateur de la revue des charges poètes également, qui a connu Michel Marlène et qui nous parle de l'homme et de l'œuvre.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Eh bien, à mon tour d'apporter ma pierre à cette émission d'hommage à Michel Marlène dont nous avons appris la mort au début du mois de juillet. Je n'ai pas de témoignage particulier à apporter pour saisir la personnalité de ce poète. Je ne suis qu'un lecteur, curieux de la vie des livres. Et c'est bien de ce point de vue que je veux intervenir aujourd'hui en éclaircissant un point de la bibliographie de Michel Marlène avec ce recueil ultime intitulé « Le prince des solitudes » et qui serait sans doute passé inaperçu sans une note de lecture publié par Xavier François Farine sur son site Le Feu Central. Le Feu Central que chacun peut retrouver sur Internet. Et que dit ce Feu Central à la date du 8 décembre 2016, à propos de Michel Marlène? Je lis. En 2016, sa dernière et fine plaquette anthologique, Le Prince des Solitudes, a été publiée en catimini dans l'indifférence quasi générale. Je pense même que le poète lui-même n'a pas voulu l'ébruiter. Mystérieuse plaquette, s'il en est, et dont j'ai pris à mon tour possession grâce à la bienveillance de la famille. Le Prince des Solitudes compte 48 pages, publiées sous couverture bleue par la Maison nationale des artistes dans une collection consacrée, je cite, consacré à l'œuvre des résidents qui y séjournent ou y ont séjourné, à côté des travaux qui effectuent régulièrement des artistes en résidence. Et c'est en effet dans cet établissement de Nogent-sur-Marne, cette Maison nationale des artistes, qu'a vécu de longues années Michel Marlène. Sans doute, les capacités de diffusion de cet organisme sont-elles réduites ? Et par ailleurs, aucune adresse ne figure sur la publication. Aussi, me paraît-il hasardeux, comme le fait Xavier François Farine, d'imputer à l'indifférence générale ou à une volonté du poète de ne pas ébruiter cette publication l'absence de réaction critique. La grande question demeurait, on le comprendra, de savoir si ce prince des solitudes proposait ou non un ensemble de poèmes inédits, ce que l'absence de toute référence à l'œuvre antérieure autorisait à penser. Même si la publication par deux fois du même texte alertait malgré tout sur le degré de sérieux de l'entreprise éditoriale. Une communication de Xavier François Farine à la date du 1er août remet les choses en place, s'avère décisive. Et non, 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 hélas, non, ce prince des solitudes n'est pas une œuvre originale. Je cite, après une scrupuleuse vérification dans l'œuvre de Michel Marlène, je confirme que 99% des textes du prince des solitudes sont issus de publications beaucoup plus anciennes, du Jeune homme gris et de Généalogie du hasard, édités l'un et l'autre au Des Bleus de Louis Dubos en 1980 et en 1986. Seul un texte paraît inédit, sans que j'en sois tout à fait sûr, dit l'auteur. Saga interdite. Et l'ordre des textes a été revu. Néanmoins, cela forme un beau petit condensé anthologique pour qui ne connaît pas la poésie de Michel Marlène. Contentons-nous de ce mot de consolation. Un beau petit condensé anthologique pour qui ne connaît pas la poésie de Michel Marlène. Et je ne le quitterai pas, ce prince des solitudes, si bien nommé, somme toute. Et on aimerait savoir, soit dit en passant, si le titre est de l'auteur. Sans vous donner lecture d'un extrait, soit un poème intitulé « Paquebot ». Paquebot. Ne laisse pas aller le monde sans toi. Privilégie l'excès. Reste, éteins le malheur et vois. Il va faire beau. Les gens du matin, avec leurs yeux froissés, regardent l'enfant que tu portes sur ton bras. La sueur qui perle à tes lèvres est celle du contentement. Eh bien, restons-en à ce contentement pour quitter Michel Merlaine, mais rappelons que on peut se procurer Le Prince de Solitude, une plaquette qui vaut 5 €, en s'adressant à la Maison Nationale des Artistes, 14 rue Charles VII, 94 130, Nogent-sur-Marne. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Nous arrivons presque au terme de cette première émission de l'année de La Route Inconnue, mais il me reste quand même quelques minutes, suffisamment avant de céder la parole à Patrick Jeuquel, pour vous présenter une anthologie publiée aux éditions Le Temps de Cerise. C'est une anthologie qui a été publiée en collaboration, figurez-vous, avec la RATP, parce qu'il s'agit d'une anthologie de poèmes très courts qu'on peut lire dans le métro, dans le bus, dans le tramway d'ailleurs, peu importe, ou dans la salle d'attente d'un médecin. Je vais vous lire trois poèmes très différents les uns des autres. Vous allez voir que les univers qui se côtoient dans ce livre en sont tout à fait divers et variés. Tout d'abord un poème de Charles Bukowski, extrait de « L'amour est un chien de l'enfer », poème intitulé « Quelque chose ». J'ai plus d'allumettes. Les ressorts de mon lit sont cassés. Ils ont volé mon chausse-pied. Ils ont volé ma peinture à l'huile, celle avec les deux yeux roses. Ma voiture est pétée. Des anguilles glissent sur les murs de ma salle de bain. Mon amour est brisé. Mais la bourse était à la hausse aujourd'hui. Tout autre chose, Yosabu Son, grand haïkiste japonais du XVIIIe siècle. Quelle joie! Traverser à gué la rivière en été, les sandales à la main. Et pour nous quitter, René Guicadou, si c'était lui, et si c'était, mon Dieu, ce marin saoul qui est entré ce soir dans ma maison, l'éternité, dont 23 ans de navigation, nazérien ou nazérien, peu importe l'état civil, quand on débarque de très loin par des chemins tournants, et difficile. Si c'était lui, un poème extrait de Hélène ou le règne végétal, là encore un grand classique de la poésie publié chez Segers. Voilà, je vais vous laisser entre les mains de notre ami Patrick Jeuquel, puis bien évidemment on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle édition de La Route Inconnue. Excellente fin de journée à toutes et à tous, à l'écoute de nos programmes qui évidemment se poursuivent pour votre plus grand plaisir, du moins je l'espère, je croise les doigts pour ça. Allez Patrick Jeuquel.
Eh bien, bonjour à tous. En ces semaines de rentrée des classes, eh bien, la poésie revient également chatouiller nos oreilles et nos yeux. Je vais vous parler d'un livre édité aux éditions de la Boucherie littéraire, un éditeur qui est dans le sud, dans le Vaucluse. Et cet éditeur vient de publier deux livres coup sur coup, dont celui-ci, celui d'Isabelle Alentour, « Je t'écris, fenêtres ouvertes ». Voici un livre bleu dont on aurait tort de se priver. La poésie est affaire de perte, pas uniquement, mais c'est une de ses pistes et depuis longtemps, d'absence. Écrire un mot en pensant que c'est le dernier, c'est accorder une place au vide, un vide ouvrant sur un autre vide, celui de l'absence où il semble que tout se perd. C'est ainsi que s'ouvre ce livre à chuchoter, à murmurer, dans cette tonalité intime où, comme l'a écrit Barnot, on se tient au seuil de la merveille. Il y a toujours un avant, un pendant et un après. À chaque instant, le monde change et n'est plus jamais le même. C'est dans ce mouvement que vont s'inscrire les quatre parties de ce livre, dans ce moment de basculement, d'entre-deux, quand se jouent de nouveaux possibles et que s'ouvrent de nouveaux horizons, qu'on franchit ou pas. car tout horizon n'existe que pour être franchi, même si parfois on n'ose pas. Ici, avec les mots d'Isabelle alentour, aucun doute, le franchissement est effectué, réussi, et plus rien n'est pareil. D'abord, il y a le « une », première partie, celle de l'attente. Une attente qui n'en est pas tout à fait une. C'est le quotidien solitaire et heureux, sans inquiétude. Et puis l'autre arrive et déjà le mouvement s'enclenche. L'oscillation comme un pendule entre en soi. Ensuite, il y a le deux, la deuxième partie, la rencontre, rencontre amoureuse totale avec les corps partagés pour viatique, l'exultation et son exaltation, une respiration nouvelle, tout est différent, neuf, joyeux. Vient alors en troisième partie le seul, l'après, le manque, avec le désir et le souvenir. Tout se conjugue au présent, on ne vit que dans ce moment-là, avec l'écriture comme table de nuit, compagne du silence et de l'évocation. Et puis arrive un nous, en quatrième partie, un nous au conditionnel, un rêve, un désir ou un espoir. Tout cela peut être, car tout est différent, tout a changé. Alors, avec ce nouveau regard sur le monde, avec ce nouvel éclat dans les yeux, on peut poursuivre le chemin, ce chemin qui s'ouvre derrière l'horizon sauté. Un livre tout en justesse, en émotion et silence, un petit bijou. Décidément, ce boucher littéraire pourrait devenir bijoutier. Et donc, j'ai écrit « Fenêtres ouvertes » d'Isabelle Alentour aux éditions de La Boucherie littéraire. Et je vais vous lire le tout début de ce livre, une sorte de prologue en quelque sorte, les deux premières pages. Écrire un mot en pensant que c'est le dernier, c'est accorder une place au vide. À un vide ouvrant sur un autre vide. Celui de l'absence, où il semble que tout se perd. Un silence en forme d'arbre ou de nudité, je ne sais pas. Je t'écris fenêtres ouvertes sur la nuit en attendant que se réveille l'arbre ou que se dévoile la plaine. Cette nuit est trop chaude pour un homme qui marche depuis longtemps, trop transparente pour un homme nu, trop enveloppante pour un solitaire. Le monde ne sera plus jamais le même. Sans doute en va-t-il ainsi de toutes les mains et de toutes les peaux et de tous les corps qu'on a frôlés ou caressés. Il arrive un moment où on ne les a ni frôlés ni caressés. En quelque sorte, c'est comme si on n'avait jamais frôlé ou caressé. Le monde n'est déjà plus le même.
Thank you.